Vous écoutez
RMC.
Mais tout de suite, c'est l'événement. Invité exceptionnel avec un énorme palmarès, 81 sélections en bleu, une victoire en Ligue des Champions avec Manchester ou encore 5 championnats d'Angleterre. Patrice Evra est dans Rotten sans flamme.
Quel invité. Salut Pat.
Salut.
Ça va, tu rigoles déjà avant de
commencer? Non, mais bien sûr, je rigole parce que j'étais dans les airs, tu savais déjà que j'étais à Paris. J'avais même pas mis encore un pied sur
parce
Paris.
Que tu me mésestimes, tu me donnes pas assez d'importance.
Voilà, tu m'as mis une juste.
Je sais tout ce que tu fais, tout ce que les gens vont. Ils arrivent à l'aéroport, bam, que ça soit à l'étranger, en France, bam, je sais qu'ils arrivent. Voilà. Donc, t'as fini ici avec moi pendant quelques minutes. Donc, très sympa d'être là déjà. Merci.
Ouais,
merci.
Tu me feras mon virement. Hein, dans mon
pas de problème. Bien sûr. On fera le virement le jour où tu seras consultant régulier de Rotten sans flamme. Qui est quand même. Parce que la dernière fois que tu es venu,
c'était il y a un an.
Ouais, on grandit.
Déjà ?
Mais on grandissait. Et là, on est numéro 1 maintenant.
T'es numéro 1.
Eh oui.
À force de torpiller tout le monde, t'es devenu numéro 1.
Pourquoi torpiller ?
Ah non, moi, c'est les échos que j'ai.
Mais qui est quel écho de qui ?
Les bruits de couloir.
Arrête, je torpille tout le monde. Non, je parle de foot, de la passion, Pat.
Oh, je sais.
Parler de passion du football dans un instant. Mais déjà, comment tu vas ? Ça a l'air d'aller.
Franchement, comment ça va ? C'est une bonne question. Ça va très bien. Je veux dire, tout se passe bien dans ma vie. Tout est positif. Mais je bosse beaucoup. Franchement, j'ai l'impression quand je jouais au foot, j'étais en vacances par rapport à maintenant. Mais je fais plusieurs choses en dehors du football. Donc voilà, je donne plus de ma personne. Même si je reste un peu connecté avec le football. Mais voilà. Rendre les gens heureux. Je suis un militant pour arrêter la violence contre les enfants. Je fais
plusieurs
trucs.
Je voulais en parler de ça. Là.
Ouais, voilà, j'ai fait un discours il y a 4 mois aux Nations Unies. Mm-hmm. Donc le premier sportif qui fait un discours aux Nations Unies sur un podium comme des gars comme Obama, etc.
Bravo,
non, c'était bravo. Pas vraiment parce que je suis juste une voix pour des millions d'enfants. Donc c'est pas moi qu'il faut créditer.
C'est important.
C'est important, mais c'est ce qui me rend heureux aujourd'hui, c'est donner de ma personne.
D'accord. Donc en fait, tu es en train de nous dire que tu es un peu déconnecté du foot ou tu restes quand même passionné de football, donc tu regardes des matchs.
Non, tu me connais, hein, regarder les matchs. Je suis vraiment un escroc sur ça. Tu te rappelles à Monaco, quand on faisait quelques séances vidéo, je connaissais même pas certains joueurs et c'était pas par arrogance, c'est parce que voilà, quand je finissais l'entraînement, je suis pas quelqu'un qui regarde les matchs de football, mais bien sûr, je dois suivre, notamment ce qui se passe en France, Manchester United, la Juventus, l'équipe de France.
Bien sûr,
Donc voilà, on reste connecté. J'ai fini mes diplômes d'entraîneur, mais c'est pas pour ça que j'ai envie de reprendre une équipe directement. C'est vrai que voilà, des personnes comme Ferguson qui me verront en tant qu'entraîneur, etc. Je peux le faire. Je suis pas arrogant. Joueur, c'est un boulot, mais entraîneur, c'est 24 heures sur 24. C'est pour ça que je respecte tous les entraîneurs. Moi, aujourd'hui, je suis entraîneur. Ta femme, elle te parle. Tu vas même pas lui répondre. Tu vas penser à c'est qui le joueur, l'équipe qui va jouer le prochain match. Donc, en fait, je suis honnête avec ma personne. Je suis pas prêt à tout sacrifier. Parce que voilà, quand tu es dans le monde du football, pour moi, t'es dans une bulle.
Tu sacrifies tout.
Tu dois tout sacrifier.
Comme quand t'étais joueur, en fait.
Mais exactement.
Et encore pire. Moi,
tu te rappelles, mon premier fils, Lenny, à l'âge de 3 ans, je rentre à la maison, il était en train de pleurer. Je dis, pourquoi tu pleures? Il me dit, parce que je déteste Manchester United. Il me dit, je déteste. Putain, il est conçu, là. Je déteste Manchester United. Je dis, pourquoi tu détestes Manchester United? Il dit, parce qu'ils ont volé mon papa. Tu vois, ça te fait réfléchir. Et c'est comme ça. Si tu veux rester à un certain niveau, je suis désolé, tes potes, des fois même ta propre famille, tu dois tout sacrifier.
Ouais, de toute façon, en plus, tu dis que t'as un programme très chargé qui est aujourd'hui en dehors du foot. À peu près, même s'il y a des choses qui se rassemblent et qui se ressemblent, quand tu veux être entraîneur, automatiquement, ça voudrait dire que tu abandonnes tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais actuellement.
T'as tout compris et c'est pour ça, c'est compliqué. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de joie, comme j'ai dit, à donner beaucoup de bonheur. Je voyage beaucoup en Afrique. Là, par exemple, je suis venu en France, on est là, mais je pourrais pas faire toutes ces choses-là.
Ouais.
Donc, à l'arrivée, avec mes réseaux sociaux, quand t'es dans le monde du foot, les gens, ils vont te voir avec une perruque en train de danser.
Non, mais laisse tomber.
Voilà, tu connais, on est très fermé.
Tu fais 15 jours, tu te fais démonter.
Non, mais exactement. Alors que voilà, c'est juste une minute de vidéo. Moi, je vois les joueurs, à peine, tu vois, ils sont là, ils vont danser ou quoi. Ils vont dire, les supporters, ils sont pas concentrés, etc. Mmh. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Après, comme je dis, est-ce que la nouvelle génération peut être focus les réseaux sociaux et en même temps sur le terrain? je sais certaines personnes, tu vois, je suis pas sûr de ça.
Ouais.
Parce que la priorité, ça doit être le terrain, ça doit être l'entraînement, ça doit être.
Mais c'est ce qu'on a connu nous. Après, exactement. La génération a changé, donc il y a une évolution. Aujourd'hui, je pense qu'il faut faire avec. Il y a des choses que, et c'est pour ça que c'est difficile, parce que là, je te parle de moi, par exemple, où tous les jours, je donne mon avis sur des thèmes, sans forcément, comme tu dis à dire, dézinguer tout le monde, parce que c'est pas mon but. Moi, c'est de parler avant tout du terrain, du sportif, du footballeur, et mettre en avant ses qualités, parce que s'il arrive au haut niveau, quel que soit le haut niveau, c'est que il a fait beaucoup de concessions et tout ça. Mais il y a des choses qui me paraissent, quand tu les critiques sur une performance, automatiquement, tu vas sur l'extra-sportif. Quand le mec, il fait des vidéos à des heures qui sont pas des heures pour de la récup et tout ça, forcément, t'es dans la critique là-dessus.
Ouais.
Et eux comprennent pas automatiquement ça parce que ils vivent dans cette génération-là avec les réseaux sociaux, à montrer leur vie, à voir ce qu'ils font. Non. Il y a un décalage.
Mais moi, je trouve qu'ils ont pas de bol. Moi, je trouve qu'on était chanceux, qu'on n'avait pas tous ces réseaux sociaux ou les personnes tout de suite avec un téléphone.
Heureusement.
Parce que voilà, à l'époque, voilà.
Bah, surtout là, toi. Parce que...
Qu'est-ce que tu me racontes tes conneries, toi? On va pas commencer à parler de dimanche.
Non, parce que de toute façon.
On n'est pas là pour régler des.
On a la même, des le même destin.
Non, laisse-moi tranquille. Mais non, mais c'est pas ça. Mais les gars, voilà, ils peuvent rien faire.
Ouais.
Ils se grattent le nez, oui, c'est mort. Il a souri. Il était dans le restaurant. Ils ont perdu un match. Moi, franchement, c'est chaud. Et ils sont pas prêts. On les a pas préparés pour ça. On arrive, on les laisse comme ça dans la jungle. Et franchement, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Moi, je pense que voilà, on est loin, on les monte du doigt, mais ils ont quand même leur vie privée. Et c'est des êtres humains avant tout. Moi, alors, tu vois, j'ai signé pour faire des prestations sur le terrain. Mais ce que je fais en dehors de ma vie privée, à la base, ça regarde personne. Mais je suis d'accord de ton jugement en tant que supporter ou un abonné qui paye et qui voit que son équipe est père et le gars, il est en boîte ou truc. Bah, bien sûr que ça fait mal. Ouais. Ça se pose des questions. Mais aussi, je me dis, après, sa vie privée. Tu vois, il fait
c'est vrai.
Patrice Evra dans Rotten sans flamme sur RMC. Moi, je me régale. Hein. J'ai l'impression d'être dans le vestiaire à Monaco à l'époque. Ouais. Là, vous discutez entre vous. Là, c'est magnifique. Juste, vous avez fait référence à l'interview de Patrice il y a un an à l'occasion de la sortie de votre biographie. Patrice, on va la remettre en podcast pour ceux qui n'ont pas suivi expérience de vie passionnante à entendre, donc on va vous remettre ça, vous pourrez réentendre ça.
Ça fera quelques ventes en plus.
Ouais, t'es devenu gentil, toi.
C'est moi qui ai parlé, c'est pas Jérôme.
Ah, c'est toi, oui, mais voilà, gentil. Je me disais bien, je suis désolé, je lui donne des compliments.
C'est mon émission, je te mets en avant comme ça. J'ai dit à Jean-Louis, il parle absolument de son livre.
Non, mais donc, du coup, on va moins parler aujourd'hui forcément de votre vie, Patrice, mais pour ceux que ça intéresse, il y a le podcast qui est dispo. Juste sur l'expérience d'entraîneur, donc ce que je retiens, c'est que c'est pas pour tout de suite, mais Evra sur un banc.
C'est pas pour jamais.
C'est possible un jour quand même.
Non, mais bien sûr. Parce qu'après, il y a un moment, je suis pas égoïste et ce serait dommage, tu vois, de pas partager mon expérience avec la nouvelle génération. Et je te dis, après, quand je passe mes diplômes ou quand j'entraîne l'équipe, ben, je prends du plaisir, je vais pas mentir. Mais en fait, c'est comme si le football me manque pas. Mais si demain tu me mets sur un banc ou même sur un terrain, je fais des matchs, tu vois, pour UNICEF, je me régale. Il y a même des personnes, mais Patrice, pourquoi t'as arrêté? Tout ça, je m'entraîne tous les jours, je reste, tu vois, une très bonne condition. Mais c'est juste comme il dit, je peux pas sacrifier ce que je suis en train de faire en ce moment, tu vois, d'avoir un impact sur le monde, sur la terre.
Et alors justement, cet engagement pour les enfants, contre les violences, ça vient d'où? C'est le fait d'être confronté à ça en tant que parent,
lié à ton enfance.
Mais parce que voilà, moi je me dis aujourd'hui, on parle beaucoup de sauver notre planète, on parle beaucoup de racisme, etc. Mais moi j'ai dit, tu vois, un enfant, il n'est pas raciste, il n'est pas pédophile, il n'est pas. C'est oui, il grandit son environnement. Et le problème dans cette société, on aime bien dire, ah, parce qu'il a fait ça, ça y est, on le fout en tôle. Mais au lieu de se poser sur la question, le pourquoi. Et moi, c'est ça que je veux que tu vois, envoyer ce message. Il faut se poser pourquoi on est comme ça. Et aujourd'hui, c'est l'éducation, la base, les écoles, aller dans les familles. Tu vois, avoir de l'aide. C'est pas, on va dire comment il faut que t'éduques ton enfant, mais ouvrir tes portes. Et je sais que c'est difficile, spécialement aussi pour des personnes africaines. Tu vois, dire, oui, il faut que t'élèves ton enfant. Bah, tout de suite, on te ferme les portes. Mais moi, aujourd'hui, je suis en train de faire un truc énorme, à l'étranger. Et il est temps pour moi aussi que je me focus en France. Parce que c'est bien ce que je fais quand je vais en Afrique, je vais voir toutes ces victimes, etc. Mais aujourd'hui, voilà, je viens en France, je vais rencontrer des associations comme l'Enfant Bleu, etc. J'ai vraiment envie de mon retour en France. Ça sera vraiment pour aider les personnes. Parce que comme j'ai dit, voilà, faut jamais oublier d'où tu viens.
Bah, c'est ton pays.
Et c'est là, mais exactement. Oui. Tu vois, c'est comme les gens, ils me posent cette question. Alors, t'aimes plus le Sénégal ou la France? Mais c'est comme si tu me demandes.
Non, mais ça, on s'en fout, ça.
Non, mais je sais, oui, mais c'est comme si tu me demandes, t'aimes plus ton père ou ta mère?
Oui, non, mais c'est n'importe quoi.
C'est une question complètement débile. C'est parce que dans cette société, on te force à choisir. Ouais. Et quand tu choisis pas, bah, ça y est, t'es un traître, t'aimes pas ça. T'aimes...
Moi, je te félicite par rapport à ce que tu fais après ta carrière, parce que c'est une réussite. Mais vu que tu l'as dit, tu restes passionné de football. Automatiquement, il va falloir que tu redonnes un peu plus au foot. Donc déjà, dans un rôle de consultant avec moi, là, les prochaines, ça c'est génial. Ça, j'ai
Jérôme
acté.
Jérôme s'enflamme. Je t'ai dit, moi, ça va plus s'envalmer, je vais le brûler. Après, ça va être vrai, brûle bah, Jérôme. Mais,
vous avez ce point commun sur le franc-parler. Hein.
Ah non, mais ça, par contre...
J'ai même pas le dard. Alors lui, il y a une chose, tu vois. Non, il y a un truc, tu vois, que j'aime bien. Il n'y a pas beaucoup de choses que j'aime bien sur toi.
Ah bon?
Mais cette chose, je la kiffe, c'est que j'ai...
Bon, mon physique, voilà, il a pas
la... Non, c'est
apprécié,
que j'ai, mais... c'est pas la personne. Tu vois, j'ai joué des années avec G. Quand il a quelque chose à te dire, il te le dit en face. Mmh. Et ça fait mal. Mais au moins, c'est pas derrière le dos, tu vois. Il y a beaucoup de personnes. Et c'est ça que j'apprécie avec G. Des fois, c'est vrai qu'il est, mal compris. Tu vois, moi, quand je dis j'ai des échos, je sais qu'il détruit. C'est pas ça, c'est que moi aussi, je suis pareil. Mmh. On dit ce qu'on pense et on parle avec le cœur. Et des fois ça peut plaire, des fois ça peut pas plaire. Il y a des gens, ils vont te juger. Mais qu'est-ce qu'ils parlent? Tu vois, c'est comme par exemple quand tu dis t'aimes la France. Bah tout de suite, si tu joues à l'étranger ou vis à l'étranger, ouais, t'as pas le droit de donner ton opinion sur la France.
Bah, c'est un problème. Comme tu dis, le franc-parler, et tu l'as aussi, forcément, ferait de toi un consultant qui a pas les mains liées.
On va voir, Jérôme, en parlant de l'actu.
C'est pour ça. Incroyable. Donc là, on va te tester, je vais te noter. Voilà.
C'est un entretien d'embauche.
Tu voudrais ton avis sur la Coupe du Monde. Parce que nous, on était sur place, on a vu, franchement, on s'est régalé parce que la Coupe du Monde, c'était une réussite. Déjà, est-ce que tu es venu à Doha?
Oui, je suis venu pour le match France-Maroc.
Ouais.
J'avais beaucoup de choses à faire, j'ai eu beaucoup d'invitations, mais je pouvais pas venir. Mais je suis venu quand même pour le match France-Maroc. Après, j'étais invité pour la finale. Malheureusement, je suis pas venu. Mais comme tu dis, déjà, Coupe du Monde incroyable. Qualité des matchs incroyable. Des buts, franchement, elle a été critiquée pendant tellement de... on va dire tellement d'années
au
Qatar, les droits de l'humanité, etc. Pour moi, de l'hypocrisie, parce que ça a été voté depuis 10 ans, etc. On aime bien pointer du doigt les pays de Mides. Mais voilà, après, on va parler de l'équipe de France. Ben, franchement, quelle Coupe du Monde. Avec tous les cadres qui manquaient et qu'on arrive à cette finale et qu'on perd de peu. Hein, parce que si Thuram, c'est Thuram qui rate le but.
Non, c'est Kolomwani.
Voilà, il met ce but, on n'est plus là à discuter, on est champion,
du monde encore une fois. Trois étoiles.
Donc franchement, moi ça m'a surpris, je l'ai regardé le match en direct et j'ai pleuré. Le France-Argentine, je te dis la vérité, je suis allé dans ma voiture, j'ai pleuré. Pendant 3 jours, j'étais mal. Mais quand je te dis mal, et même je me dis, mais Pat, qu'est-ce qui se passe? Bon, je sais que t'aimes l'équipe de France comme ça, mais ça m'a tellement fait mal. Et puis franchement, chapeau à l'équipe de France.
Qu'est-ce qui vous a fait mal? C'est le scénario? C'est le fait de vous revoir peut-être en 2016 aussi? Vous avez vécu une finale perdue?
C'est le scénario. Ouais. Je me disais, voilà, Kylian qui met un trick. Tu mets 3 buts en finale
en
et
finale,
tu gagnes pas.
Ouais.
Tu vois, c'était incroyable. Et même, c'est le match, comment ça s'est passé? 2-0.
Je dis,
voilà, ça y est, la première mi-temps, on se chie dessus. Qu'est-ce qui se passe? Catastrophique. Tu reviens, boum, 2-3. Et puis là, tu perds un arras. Il y avait trop d'émotions.
T'as pas trouvé quand même qu'il y avait certains manques dans le jeu ou t'as apprécié la façon de fonctionner de l'équipe de France? Regarde, je te prends l'exemple de France-Angleterre où franchement, on gagne, mais...
Oui, alors, tu sais, après, tu connais, quand tu fais une compétition comme ça, et à un moment, t'as pas besoin de faire que des beaux matchs. Moi, je me rappelle, en 2016, les matchs de poule, ils étaient catastrophiques.
Ouais.
C'est après, on s'est réveillé contre l'Allemagne en demi-finale à Marseille. C'est là qu'on a vu le vrai visage. Donc ça, je m'en fais pas trop. Moi, franchement, j'ai été surpris de la prestation de Antoine Griezmann.
Ouais, c'est vrai.
Pour moi, c'était la clé. J'ai jamais vu Antoine courir comme ça, tacler comme ça, distribuer, faire le jeu. Pour moi, c'était le joueur le plus important de l'équipe de France. Après, Kylian, c'était le gars qui détruit. Voilà, c'est un tueur. Mais le système et comment Didier, comment fonctionnait Antoine Griezmann et après des gars comme Tchouaméni, qui franchement, j'ai l'impression que c'était sa troisième Coupe du Monde.
Ouais, avec
et tu vois, et Upamecano, que tout le monde rigolait avec son nom, etc. Moi, je me rappelle en Angleterre, mais c'est quoi ce Mécano? Mais c'est un bœuf, le gars.
Ouais.
C'est un bœuf. Donc en fait, ça m'a vraiment surpris de voir même Rabiot. Tu vois, son séjour à la Juventus, ça lui a fait énormément de bien. Et en fait, j'ai été surpris que la relève, elle était déjà prête.
Ouais.
Parce que normalement, voilà, cette équipe, que ce soit aussi les latéraux, Théo, je veux dire, cette équipe, normalement, elle devait être prête dans 3 ans.
Un petit peu plus, ouais.
Non,
plus
mais c'est pas
temps,
maintenant.
Ouais.
Mais ils étaient déjà prêts, les gars.
18h16, Patrice, c'est l'événement. Patrice Evra, invité exceptionnel de Roten sans flamme, Jérôme, sur RMC.
Bon, là, on a fait le bilan un peu de la Coupe du Monde, comment tu l'as vécu. Par la suite, donc, il s'est passé plein de choses. Didier Deschamps a été prolongé. Toi, est-ce que tu militais en tant qu'ancien capitaine de l'équipe de France, en tant qu'ancien joueur de Didier Deschamps en sélection, est-ce que tu trouves ça logique qu'il ait continué?
Moi, je pense que, ben alors là, je vais dire franchement, Jérôme, oui. Moi, je trouve que Didier, il a tellement d'ennemis, mais comme on dit, quand t'as beaucoup d'ennemis comme ça, c'est parce que tu déranges et tu gagnes beaucoup. Je suis désolé, pourquoi on veut un changement quand ça fonctionne? Il connaît cette génération. Il ramène des joueurs, on se disait tous, mais il est même pas prêt, ils vont même pas passer les poules, et il va jusqu'en finale. Mais aujourd'hui, tu peux ramener de la fraîcheur. Tu peux ramener des grands noms comme Zizou. Bon, ben, bien sûr, ça me plairait de voir Zinedine Zidane, entraîneur de l'équipe de France. Mais pour moi, l'histoire de Didier Deschamps avec l'équipe de France, elle n'est pas finie. Mais elle n'est pas finie. Et moi, j'ai même peur que c'est que le début. Et tu vois, ça va faire mal.
C'est-à-dire, tu le vois encore prolonger, encore à l'Euro, la Coupe du Monde.
Tu connais Didier, tu penses vraiment que s'il nous refait un euro de malade, il gagne l'euro. Il nous fait encore une Coupe du Monde. Parce que moi, je suis désolé. Moi, je leur ai dit à tous les étrangers en Angleterre, etc. J'ai dit là, ok, vous rigolez, on a perdu en finale. Mais cette équipe, elle va ramener encore 3 étoiles. Là, tu peux, les gens, ils peuvent me prendre pour un fou. Mais moi, j'ai vu les autres nations.
Oui, c'est
avec
vrai,
nos joueurs clés, ce qu'on fait, je suis désolé. On va ramener encore 3 étoiles. Et Didier, son aventure, on sait très bien, elle a commencé depuis le match des barrages contre l'Ukraine.
Ouais.
Quand on perd 2-0
ça fait
là-bas,
plus de 10 ans.
Ils ont failli ressortir la guillotine, ils ont voulu tous nous couper la tête. Et après, au Stade de France, on gagne 3-0.
Doublé de Mamadou Sakho.
Voilà, doublé de Mamadou. Et c'est là que ça commence.
Hein. Ouais.
C'est là que l'histoire de Didier commence. Après une belle Coupe du Monde 2014, bon, on perd contre l'Allemagne, l'Euro, etc. Mais c'est là que... Mais moi, je suis désolé.
Mais tu dis que ça dure encore longtemps, mais n'empêche que... C'est très rare d'avoir un sélectionneur qui reste autant de temps. Alors, on sait qu'il est unique, Didier Deschamps, on est d'accord. Mais quand tu dis, ouais, moi, je le vois, c'est peut-être que le début et on va continuer. Mais, et tu l'as très bien dit, je me souviens d'une interview de toi, il n'y a pas si longtemps que ça, où tu dis, la France appartient aux Français.
Ouais.
C'est vrai.
Didier le dit aussi, ouais.
Exactement. Mais, moi, j'ai pas l'impression qu'ils le sentent comme ça parce que, à la fois, il y a beaucoup de gens qui auraient aimé avoir du changement, ramener de la fraîcheur à la tête de la sélection.
Tu connais. On prend un million de Français. On leur dit de faire un 11 de départ. Il y a peut-être deux Français qui vont avoir la même chose. Mais en fait, moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi on n'aime pas cette longévité en France. Moi, j'aimerais qu'on dise Didier Deschamps, c'est le dinosaure des sélectionneurs de la planète.
Ouais.
Mais on n'aime pas ça. Il faut du changement au mercato.
Mais pourquoi,
il faut
ton
des
avis
nouveaux joueurs.
Et pourquoi est-ce que c'est lié à ce qu'on est en France?
Mais on est comme ça, on a ça dans le sang.
D'accord.
Mais moi, ça me fait rire. Moi, aujourd'hui, quand on dit oui, en France, on est râleur, etc. Mais je dis oui, et alors? Et alors, quand je suis à l'aéroport et je fais la queue et j'entends quelqu'un râler, je dis voilà.
Non mais toi,
retourne dans mon pays.
Mais toi, tu fais pas la queue, arrête. Regarde-moi. Tu fais la queue, toi.
Bien sûr que je fais la queue. Je t'ai même demandé de me faire voyager en économie de Dubaï à Paris. Le gars, il m'a dit on n'a pas de sous à RMC. Donc commence pas à parler de ça.
Arrête. Et donc vous faites la queue. Il y a un mec qui râle, vous retournez, c'est Jérôme cette personne. Ouais. Normalement, c'est Jérôme.
C'est un bébé de Jérôme.
Mais non, parce que moi, si je râle, le mec à la frontière. L'autorité, il va me reconnaître, il va me dire viens, monsieur Rotten.
J'ai ce que je veux dire, c'est qu'il est temps qu'on assume. Oui. Moi, je suis pire quand tu vois, c'est vrai que quand on va dans d'autres pays, quand il y a les Français, on se retrouve, ça devient un carnage.
Oui,
c'est la réalité, on est comme ça. Mais aujourd'hui, je me dis voilà, moi, je suis fier. On est fier de ce qu'on est, on est comme
vrai,
ça,
vrai,
et on ne nous changera pas. Et c'est pour ça qu'on râlera. Tout le temps.
Donc il faudrait être fier d'avoir Didier Deschamps, même s'il reste 20 ans, même si c'est Ferguson en sélection, il faut en être fier.
Oui, mais parce que, attention,
c'est ça le début de
Ferguson, pas de problème, il y a des sélectionneurs, et il n'y en a pas beaucoup, des sélectionneurs, il y a Joachim Löw qui est resté très longtemps aussi en Allemagne, qui faisait l'unanimité. Mais peut-être que, à travers, on parle pas des compétences de Didier, et je vais pas les remettre en question, surtout moi. On parle pas de ses résultats parce qu'ils sont hallucinants. Non, mais c'est vrai. Mais on parle peut-être de la personnalité de la personne.
Okay.
En fait, comme elle est, ce qu'elle dégage, quand il arrive et qu'il parle aux médias, parce que c'est important de s'exprimer, parce que là, tu parles aux Français, en équipe de France. En club, c'est différent. Okay. Entraîneur de club. Et moi, je lui demandais pas ça quand il était à Monaco, à Marseille ou à la Juve et tout ça. Mais en sélection, je trouve que les Français ont le droit de savoir le pourquoi du comment. Pourquoi tu sélectionnes tel joueur? Pourquoi, quelle logique? Pourquoi, par moment, t'es pas bon dans le contenu et t'as le droit de dire que t'es pas bon? En Irlande, je sais pas si t'as vu le match là, en Irlande, Irlande-France. Bon, on gagne 1-0. Ben, franchement, on est assis sur un concombre, pardon. On est très chanceux. Et à la fin du match, t'es capable de dire, surtout lui, enfin pas me dire qu'à chaud, il arrive pas à prendre du recul. C'est un génie là-dessus, dans la façon de voir les matchs et tout. Je sais qu'il est pas content. Pourquoi il te le dit pas?
Comme l'explication de la finale de la Coupe du Monde.
Exactement.
Pourquoi pendant 80 minutes, on n'a pas été bon.
Et peut-être que les Français lui reprochent ça et qu'on se dit, au bout de 10 ans, on a peut-être envie d'avoir une autre personnalité à la tête de l'équipe de France.
Non, franchement, les arguments que tu donnes, t'as pas tort. Ça va être difficile de.
T'as vu, je suis bon.
De dire le. Bah, t'es con.
Ouais. Non, mais dis-le.
Ça va être difficile de faire le contraire. Mais après, aujourd'hui, quelle relation Didier il a aussi avec les journalistes. Tu sais, quand on t'en met plein la gueule avant une compétition, Didier Deschamps, c'est un être humain, les gars. C'est pas un robot. Hein. Il peut arriver devant vous, parler, et tout. Mais ne croyez pas qu'il souffre. Hein. Je crois qu'il a pas reçu des menaces et tout.
Mais attention.
Dans le passé, etc. Ouais. Donc après, il y a un moment, tu te fermes. Moi, personnellement, tu crois que je m'arrêtais en conférence de presse, truc, où je passais, vive la France, etc.
Mais c'est pas notre rôle.
Voilà. T'es un sélectionneur. Comme tu dis, l'équipe de France appartient à tout le monde. Mais aujourd'hui, tu connais dans le monde du foot, tu peux pas tout dire.
Tu peux un peu dire quand même.
Moi, je pense que qu'à l'arrivée, Didier, il est focus sur les résultats. Mmh. Et aujourd'hui, sur les résultats,
il doit juger que là-dessus.
En fait, c'est ça. Mais moi, je sais que peut-être tu veux plus d'un Didier Deschamps humainement. Après, faut savoir aussi si Didier
aujourd'hui
n'est pas blessé.
Oui, mais aujourd'hui, c'est que Jérôme, tu le connais.
Mais c'est pour Deschamps. Ça, ouais.
Et c'est peut-être pas le cas de tout le public non plus, tu vois. Et toi, t'as l'impression, j'imagine, de voir le double discours. Et c'est ça qui te pose un problème.
C'est ça, parce que je sais dans le vestiaire comment il est. Je sais que quand il fait un match en Irlande et qu'il va revoir les mecs, parce que là ils sont tous repartis,
il va au mois de juin.
Déjà
les appeler.
Exactement. Mais je suis pas content de toi, je suis pas ceci. Oui, mais ça fait du bien que je pense qu'il peut progresser là-dessus, sachant. Une chose, c'est que je comprends tout ce que tu dis, les menaces, tout ça, ça touche n'importe qui. Et surtout lui, ça le touche, et je sais de quoi on parle, parce que des menaces, il en a eu bien avant, là, dernièrement, le fait qu'il prolonge la relation avec Noël Le Graët et tout ça. Mais n'empêche que, quand t'as cette légitimité-là aujourd'hui, il peut fermer la tronche à tout le monde. En termes de résultats, qu'est-ce que vous allez me reprocher? L'équipe de France, elle est au rang, elle est numéro 2, mais elle pourrait être numéro 1. D'accord? Au rang FIFA, on est numéro 2, je crois.
Vas-y, les premiers.
Ouais. Ensuite, les résultats, on a quasiment tout gagné. On a fait finale d'Euro. Bon, c'est une finale, on sait. Et moi, je sais, avec toi, on en a fait une. Malheureusement, toi, tu l'as gagné derrière. Moi, je ne l'ai pas regagné. Mais ça marque. Mais une finale, il n'y en a qu'un qui gagne. Mais le fait d'être déjà en finale, c'est un exploit. C'est une performance. Donc, ça, on ne peut pas le reprocher. L'Euro avec vous en 2016, la Coupe du Monde 2018, la Coupe du Monde 2022, l'Euro 2021, c'est mal passé. OK, il a le droit. Sur 4 compétitions, il fait 3 finales. Bravo. Donc, tu as ça. Donc, tu peux montrer autre chose. Tu peux te libérer et essayer d'expliquer. Surtout qu'il y a beaucoup de critiques. Et comme tu dis, ça le touche. Mais qu'est-ce qui l'empêche d'expliquer un peu plus aujourd'hui?
Mais je vais te dire quelque chose. Tu vois, moi, j'ai été entraîné plus de 13 ans avec Didier, que ce soit avec Monaco et l'équipe de France. Aujourd'hui, je te dis sincèrement, il n'y a qu'aujourd'hui que je connais vraiment Didier en tant qu'ami. Donc après, Didier, c'est vrai qu'il dit les choses, comme tu dis, il te prend un par un, mais il souffre pas facilement, Didier. Il est très méfiant.
Oui.
Il est très méfiant. C'est même quand, comment tu lui dis bonjour, il se méfie déjà.
C'est vrai.
Et moi, franchement, donc voilà, moi, je pense que c'est aussi sa personnalité. Maintenant, les gars, si vous voulez un gars comme Mourinho, qui fait le show, qui court sur le terrain, etc., non, et à l'arrivée. Non, je sais, mais tu gagnes pas tout le temps. Après, faut choisir. Tu sais, il y a Allegri qui disait, il était critiqué à la Juventus. Le football, on s'ennuie, on s'endort. Il a dit, mais les gars, si vous voulez des petits ponts, des sombreros, allez au cirque. Moi, je suis pas là pour au cirque. Après, je te comprends ce que tu dis, tu parles en tant que Français qui veut en savoir plus, qui veut que Didier s'ouvre plus. Mais après, tu connais.
Et tu sais que c'est dur pour moi d'être comme ça parce que mine de rien, j'ai beaucoup de respect pour Didier Deschamps. Moi, et les gens le pensent pas parce que je critique un peu plus dernièrement, mais je critique pas lui. Je critique juste les gens qu'il a mis autour de lui.
Patrice Evra dans Rotten sans flamme. Dernière partie de cet entretien exceptionnel dans une seconde. Le brassard de capitaine pour Kylian Mbappé, les difficultés du PSG en Ligue des Champions. On parle de tout cela avec ton invité exceptionnel, Jérôme. Patrice Evra sur RMC. À tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h31 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme, bien sûr, avec Jean-Michel Larquet, Juninho et Patrice Evra, l'invité exceptionnel. Oui, on continue notre interview avec Jean-Louis Tour, bien sûr.
Ouais. Et tout à l'heure, le casar enchaîné de 18h45. Mais donc, tout de suite, fin de cette interview exceptionnelle avec Patrice Evra, avec le dossier du Capitana, l'après Hugo Loris en bleu.
On a fait beaucoup de débats là-dessus, ouais. À savoir, parce que y avait des prétendants.
Ouais.
Antoine Griezmann,
ouais.
Et surtout Kylian Mbappé. Kylian a été choisi, Antoine a fait un peu la gueule, mais il a très bien réagi et moi je lui en veux pas parce que je trouve normal qu'il l'ait pris un peu. Qu'est-ce que tu penses, toi, du brassard de Kylian? Est-ce que tu trouves que c'est logique ou si tu avais été sélectionneur, tu l'aurais donné à Antoine ou à un autre?
Déjà, je ne suis pas sélectionneur. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut qu'on arrête ces discussions, mais maintenant, on va en parler parce qu'on a le droit, comme tu dis, l'équipe de France à appartient aux Français.
Bien sûr.
Déjà, il faut rester tous derrière Kylian Mbappé parce qu'il est choisi.
Ça, c'est clair.
Ça ne changera pas. Après, Antoine, bien sûr, tu dis c'est le plus ancien, etc. Mais est-ce que Didier n'est pas en train déjà d'analyser? C'est pour ça que je te dis, c'est que le début. Et Kylian, je le vois encore 10 ans. Et peut-être qu'il n'a pas envie de changer.
Ouais.
Dans deux ans de capitaine. Mais après, attention, je pense que Kylian Mbappé, il est très intelligent. Quand Antoine va parler, déjà personnellement, moi, quand j'étais là, Antoine, il parlait pas.
Ouais.
Il est capitaine dans le groupe. Sa joie de vivre. Mais c'est pas quelqu'un qui va faire un discours avant le match.
C'est pas un rassembleur.
C'est pas un rassembleur, c'est pas un leader. Mmh. Mais après, comme tu dis, parce que avec son expérience, oui, tu pouvais lui donner
la relation avec Didier.
Mais moi, personnellement, Didier, quand il m'a rappelé, parce que moi je voulais arrêter après la Coupe du Monde, etc. Didier, il m'a dit, je reprends, j'ai besoin de toi. Mais tu ne seras pas le capitaine. Je sais quelqu'un comme Ferguson te nomme capitaine. Mais j'ai dit, mais Didier, premièrement, je n'ai pas besoin de ça.
Oui.
Et je n'ai pas besoin du brassard pour me comporter comme un capitaine.
Un leader. Ouais.
Comme un leader. Donc après, moi je pense que ce brassard, et en France, on en fait tout un plat. Mais le seul capitaine, et tu connais très bien, de toutes les équipes que Didier Deschamps entraînait, le vrai capitaine, c'est Didier Deschamps.
Eh oui, c'est le chef d'orchestre.
Après, aujourd'hui...
Oui, mais sauf que, comme tu l'as dit, le chef d'orchestre qu'il est, et là, je te rejoins totalement, et c'est pour ça qu'il choisissait, par exemple, un capitaine comme Hugo Lloris, où il arrivait à le maîtriser en com. Est-ce qu'il arrivera à faire la même chose? Parce que là, ça passe d'une évolution aussi. Quand tu donnes le brassard à Kylian, tu sais exactement que Kylian, tu ne vas pas le façonner comme tu façonnes Hugo.
Enfin, j'ai...
Ah.
Mais je vais pas te mentir, enfin.
Ouais,
moi, tu te
plaisir.
Rappelles quand on avait fait ton émission il y a un an et je disais, moi, je veux voir d'un Kylian qui dérape. J'en ai marre d'un Kylian tout propre. Mais c'est parfait.
Ouais.
Moi, je pense pas qu'aujourd'hui, Kylian, il aura sa langue dans sa poche parce qu'il a le brassard. Il a déjà dit. Il a dit, parce qu'il y a un journaliste qui lui pose la question, qui lui dit, Hugo Lloris, qui était vraiment, il parlait comme un politicien, etc.
Ouais.
Il a dit, Hugo, c'est l'Hugo.
Ouais.
Moi, je suis Kylian.
Ouais.
Et moi, je kiffe. Il y a beaucoup de personnalité. Et moi, ce que j'aime, c'est, pour moi, c'est pas de l'arrogance de Kylian Mbappé.
C'est sa personnalité.
Et moi, tu sais très bien, j'adore ça. J'adore les gars qui sortent d'un match. Bah, j'ai été le meilleur. Tu lui as dit des fois. Mais aussi, tu vas faire un match de merde. Tu vas dire, j'étais catastrophique.
C'est vrai.
Mais les gens, ils oublient. Tu vois, quand tu dis, Jérôme, il est sorti d'un match. Il a dit, il a été le meilleur.
Ouais, ils vont retenir.
Et ben, moi, c'est ça que je kiffe de Kylian.
Ouais.
Et pour moi, c'est logique. Tu m'as posé la question si j'étais sélectionneur. Je suis pas sélectionneur, mais j'aurais.
Non, mais c'est logique.
100% Kylian.
Bien sûr.
Je sais pas ce qui se passe à Paris et qu'on dit qu'on lui a donné tous les pouvoirs, etc. Je m'en mets en équipe de France. PSG, il est déterminé, Kylian.
Ouais, c'est vrai.
Tu vas mettre qui à part Kylian? Et bon, tu dis, Antoine, et dans deux ans, tu changes encore,
Je pense que
Didier sera là encore 10 ans, les gars. Il a déjà préparé son capitaine pour 10 ans.
C'est important.
Et au-delà du capitana, c'est déjà une légende du foot français, Kylian Mbappé, à vos yeux?
légende,
Michel Platini a dit oui à cette question. C'est pour ça aussi qu'il la pose.
Belle question, c'est une belle question.
Moi, j'ai dit, moi, pour te rassurer, si tu veux, parce que je sais que tu fais souvent comme moi, j'ai dit non, pas encore.
Il est malade, celui-là. non, mais parce qu'on est comme, moi, je suis comme j'ai. C'est, tu vois, légende quand même. C'est des années.
Oui.
C'est pas, tu vois, Kylian, il va regagner encore une Coupe du Monde, etc. Mais légende, il faut qu'il gagne aussi un ballon d'or.
Ouais,
il faut qu'il gagne une Champions League avec Paris.
Exact.
Ou même s'il va dans un autre. Donc légende, c'est énorme. Mm. Tu vois, même moi, quand on me dit légende de Manchester, ben, tu vois, des fois, je suis un peu mal à l'aise. Mais voilà, c'est parce que voilà, pendant 9 ans, t'étais là, t'as gagné, t'as prouvé. Donc voilà.
Oui, puis t'es capitaine.
Voilà. Ça peut pas se décréter à 24 ans. Il faut attendre dans le
temps. Non,
il faut attendre.
Mais les gars, on va pas lui souhaiter ça. Mais tout peut arriver dans le football. Ouais. Une blessure, tu vois, je touche du bois. Mm. Mais les gars, ça, le football, tu connais, ça va très vite.
Exactement.
Après, je trouve que Kylian, il a la tête sur les épaules. Il a une personnalité incroyable. Donc, je me fais pas de soucis. Mais d'aujourd'hui, dire tout de suite.
C'est surtout un monstre.
Non, c'est un extraterrestre. Ouais. Moi, franchement, je te dis, j'avais vu un match Paris contre Manchester à Old Trafford. Juste une accélération. Il avait juste accéléré.
Ouais, t'as vite compris.
Je te jure, j'ai dit merde, ça m'a rappelé Ronaldo El Fenomeno. Je te dis la vérité. C'est un monstre. Après, je te dis. En France, voilà, on dit c'est une légende, mais à l'étranger, pour eux, c'est pas encore une légende.
Non,
surtout en Angleterre, parce qu'ils veulent que Kylian aille au Real ou à Manchester United ou je sais pas où pour prouver encore plus. Tu vois, mais
dans sa réussite, dans son envie, tu le comparais à Cristiano Ronaldo que t'as bien connu.
Mais les gars, dans le travail, le fait de battre tous les records. J'ai pas joué avec Kylian, je me suis pas entraîné tous les jours avec Kylian comme j'ai fait avec Cristiano. Mais les gars, pour moi, quand on compare des Messi et Cristiano avec des Haaland et Mbappé, mais les gars, on n'a rien compris. Là, on parle de personnes qui, ça fait 20 ans, qui sont au même niveau. Ça, c'est des légendes.
Alors, les difficultés du PSG en Ligue des Champions. Vous avez dit, Mbappé, il faudra qu'il gagne la Ligue des Champions un jour. Comment vous expliquez les difficultés du PSG encore éliminé face au Bayern en 8e de finale?
Et je ne suis pas surpris. Moi, je vais jamais dire que le championnat français est plus facile que le championnat anglais ou italien ou je sais pas quoi, parce que tout est différent. Moi, j'ai toujours dit, la première ligue, c'est deux boxeurs. Tu me donnes le premier KO, tu gagnes. En Italie, si t'as pas de cerveau, tu peux pas jouer. C'est un jeu d'échecs. En France, c'est l'endurance, etc. Et bon, bref, tout est différent. Mais je trouve que Paris, c'est trop facile, le championnat français. Et à l'arrivée, quand t'arrives en Champions League, la réalité. Poum, elle te prend plein la gueule. Ouais, mais t'es pas prêt. Parce que tu joues tellement avec un cigare dans la bouche quand tu joues en championnat de France. Et t'arrives en Champions League. Tu peux acheter qui tu veux. Ça sera compliqué. Et moi, je souhaite. Tu vois, j'ai joué à Marseille. Quand Paris, ils étaient en finale et ils ont perdu
le Bayern.
Il y a beaucoup de Marseillais qui ont célébré. Je suis arrivé le lendemain. J'ai dit, mais vous êtes malade ou quoi? Non, mais je comprends. Mais j'ai dit, vous êtes malade.
Ouais.
On parle d'une équipe française. Aujourd'hui, moi, je veux qu'une équipe française gagne la Champions League. Il n'y a que l'Olympique de Marseille. On a failli réussir avec l'AS Monaco. Tu penses que tous les Français, ils n'étaient pas derrière nous? Donc, en fait, je ne comprends pas toute cette jalousie et cette haine. Ça part de là aussi. Le peuple n'aide pas.
Ouais, mais ça
ne
changera pas, Pat. Ça ne changera pas.
Mais on n'aide pas. Ok, mais il y a un moment, les gars, on est Français.
Déjà, la base, c'est ici, à Paris, que.
Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Peut-être ça va te surprendre. Pour moi, c'est plus difficile aujourd'hui de jouer à Paris que de jouer à Manchester United ou au Real Madrid.
Pourquoi?
Mais parce qu'il y a une pression, une attente énorme. Aujourd'hui, Paris gagne le championnat, c'est normal.
Mais c'est pas normal de gagner le championnat. C'est vrai.
Il gagne la Coupe de... Ah, c'est normal, on s'en fout. On s'en fout. En fait, aujourd'hui, Paris, quand il gagne quelque chose, on s'en fout tant qu'on n'a pas la Coupe aux grandes oreilles. Mais les gars, il faut respecter, c'est toute une saison.
Ouais. Mais c'est un problème de mentalité. Ouais,
mais là, Patrice, vous contredisez. Vous-même, vous avez dit, en France, c'est un peu facile par rapport aux autres championnats, et c'est pour ça que quand ils arrivent en Ligue 1,
c'est pas facile
de gagner le championnat, forcément, on le célèbre pas de la même façon que dans les autres pays.
Ouais, mais c'est là où on fait les. C'est là aussi je me contredis, comme tu dis. Mais en fait, c'est pas facile de gagner n'importe quel championnat. Mais la qualité des joueurs qui ont Paris, tu te dis,
C'est vrai.
Et tu connais, dès qu'on parle de salaire, avec tout ce qu'ils gagnent, les millions, ils n'arrivent pas à nous gagner. On a tout de suite cette mentalité. Mais les gars, on n'a pas des chèvres en face de nous. Tu crois que quand les gens ils jouent contre Paris, ils veulent pas faire le match de leur vie?
Bah,
ils demandent à la famille d'enregistrer le match. C'est le match de leur vie. Ils vont tout donner.
Donc c'est pas facile.
Voilà, c'est pas facile. Et ça, on l'oublie malheureusement.
Mais est-ce que ça peut pas changer au quotidien? Est-ce que les joueurs peuvent pas se... Parce que c'est ça aussi, Jérôme, que tu reproches parfois de mettre cette exigence. Pour justement avoir cette mentalité en permanence qu'on ne sent pas tout le temps au PSG.
J'ai un problème à Paris. Il y a un seul problème, qu'on déballe le tapis rouge à tout le monde.
Eh oui.
Alors t'arrives, certains joueurs n'ont même pas peut-être 10 matchs de championnat.
C'est partie des meilleurs joueurs du monde.
Voilà.
Ouais.
Tout de suite. Allez, et ça, tu vois, c'est Dani Alves à l'époque qui me disait, mais Pat, ils vont jamais gagner la Champions League. T'arrives, on est déjà des rockstars.
Ouais.
Dans les tribunes, tu vois pas des Bernard Lama ou je sais pas qui, tu vois des Kardashian et compagnie. On est un club, je suis parié, mais show business.
Le foot n'est pas la priorité.
Mais non.
Ben c'est pour ça que
le foot n'est pas la priorité. Après, attention, Nasser, il adore le club. Léonard, ils font un boulot énorme.
Non mais Nasser, mais aujourd'hui, peut pas tout faire.
La communication. Aujourd'hui, moi, pour moi, quand je vais voir un match de Paris, pour moi, je vais voir un concert. Je suis en VIP, les sièges, champagne, petit four. Mais les gars, ils sont où les anciens? Quand tu vas à United, sur le siège, il y a écrit Evra, il y a écrit les légendes. Il n'y a pas Leonardo DiCaprio qui va venir voir le match. On n'est pas à Hollywood. Et ça, pour vous, les gars, ils rigolent, c'est des petits détails. Ils vont dire, mais il est fou, c'est pas ça qui va
faire. Tu as raison.
C'est des priorités. Refais venir les anciens. Bernard Lama, je crois, Georges Weah, il a voulu faire son jubilé à Paris. Ils ont refusé. Je parle de Mister Georges G. Donc il y a un moment, il va falloir changer cette politique. Faites venir les anciens, ça va ramener une énergie positive. Et on va parler de Paris. Parce que voilà, il y a des gens aujourd'hui, ils supportent Paris que parce qu'ils se disent, ah, les Qataris, ils ont mis plein de fric, allez, on supporte Paris. Ouais. Paris, ça a une histoire.
C'est vrai.
Paris, moi je te parle de Valdo, de Rai. Valdo, il est venu nous voir à l'entraînement à Manchester à l'époque, je me souviens. Il était là, personne. Je suis arrivé, j'ai dit Valdo.
Ouais,
et il était surpris, j'ai que je le reconnaisse. J'ai dit, mais je te vois avec tes mini protèges libérés, etc. Paris, c'est une histoire. Paris, c'est pas quand les Qataris ont repris le club.
Juste, on est d'accord, il faut ramener des anciens qui ont gagné, pas ceux qui ont joué le maintien.
Donc voilà. Là, ce qu'il veut dire poliment, c'est que Jérôme, il a pas son siège.
Déjà, j'ai mon siège. Voilà. Déjà, j'ai mon siège, mais je le paye.
Oh, il te faut payer.
Non,
mais moi, j'en suis pas sûr que tu arrives devant la sécurité. Tu dis,
je te
connais même pas.
Je vais te dire, on va faire changer les choses.
Okay. Patrice, merci beaucoup.
Merci, Pat.
C'était passionnant.
Déjà, on a parlé beaucoup de foot, mais bravo pour ce que tu fais. Je tenais à te le dire.
Tu me complimentes, j'étais.
Ah, bah oui, parce que non, mais parce que c'est important ce que tu mets en avant.
Qu'est-ce que t'as?
Et sois un peu plus présent en France. C'est important
non,
que Bélier est là.
Ça, franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pour ça que je vais revenir. J'ai eu plein de réunions avec le ministre de la Santé, etc. Mais voilà, je veux revenir en France par la grande porte. Et la grande porte, c'est rendre les Français heureux. Je te dis la vérité, on parlait Didier, mais moi, depuis la sortie de mon livre, les Français, ils ont un regard complètement différent.
Ouais.
Quand je viens ici maintenant, je suis reçu comme le président de la République.
C'est pour ça qu'ils seront
incroyable.
Ils seront agréablement surpris l'année prochaine quand tu viendras toutes les semaines, une fois par semaine.
Allez, merci Patrice.
Merci beaucoup en tout cas.
Merci à vous. Merci.
Voilà pour cet entretien exceptionnel avec Patrice Evra. Donc, on vous met en podcast une version longue, encore plus longue que ce que vous venez d'entendre. Si vous êtes arrivé en cours de route, vous pourrez réécouter tout ça. Dans une seconde, le Casar enchaîné qui va rebondir sur l'actu, puisque ça y est, c'est officiel depuis quelques minutes. Hervé Renard est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine.
Enfin, c'est vrai.
Ça tombe bien. Il sera dans le Casar enchaîné.
Il est déjà là.
À tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Rotten sans flamme. Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.